Bonjour tout le monde, vous écoutez le podcast Les Esprits Rebelles où on reçoit des gens créatifs qui ont décidé de sortir de la masse en s'assumant tels qu'ils sont. Bref, du monde bien trippant. Je m'appelle Charlotte, je suis avec Caroline.
Salut tout le monde!
Cette semaine, au podcast, on a reçu, ça a vraiment été une rencontre super intéressante, on a reçu Véronique Larivière.
Mm-hmm. On aime ça parler de sexe.
Oui, justement, donc c'est une sexologue.
Oui.
Exactement, donc c'est ça qu'elle fait comme métier, dans le fond, un sexologue dans un bureau, mais elle est aussi pas mal active sur les réseaux sociaux, donc c'est ça qui nous avait pas mal accroché, parce que c'est encore un sujet super tabou, puis
elle a osé,
elle dédramatise ça, elle vulgarise ça, puis elle fait ça avec de l'humour, elle fait comme des petites capsules sur le web et tout, donc c'était vraiment intéressant.
Oui, ce que j'ai trouvé intéressant, Charlotte, c'est de rencontrer quelqu'un qui a pas de l'air de ça, mais qui a quand même cette attitude-là puis cette personnalité-là de rebelle. Elle aime ça jouer avec les limites et on sait que les sexologues ont quand même un cadre. Donc, c'est intéressant, on en discute dans le podcast. Puis entre autres, on parle aussi des médias sociaux, de l'impact.
L'impact Tinder, toutes les applications de rencontres et tout. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la vie sexuelle et intime, dans le fond, des gens? On parle beaucoup de la sexualité, mais dans le couple, donc la communication dans le couple et tout, il y a encore du chemin à faire, il y a beaucoup de chemin qui a été fait, mais fait qu'on parle un peu de ça, on en est où aujourd'hui en 2019 dans notre vie sexuelle.
Oui.
Fait que voilà, donc c'était vraiment intéressant, discussion plus sérieuse, puis on parle vraiment d'enjeux là, de société. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est une fille super douce, intelligente.
Donc, oui, puis elle nous a dit aussi que si jamais vous aviez des questions en écoutant le podcast, n'hésitez pas à les poser en dessous, puis ça va y faire un plaisir.
Oui, super disponible. Donc, toujours encore, si vous voulez nous encourager, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager, aimer, commenter nos podcasts. On est disponible sur toutes les plateformes que vous écoutez vos podcasts d'habitude. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être là et de nous écouter. Donc, sur ça, bonne écoute!
Ben oui!
Ça va bien?
Salut! Ben oui, merci de m'accueillir!
Ben, très heureuse de te rencontrer en vrai pour la première fois.
Moi aussi, vraiment.
Et merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Et justement, on va faire ça pas mal en trois volets, mais d'emblée, la première question, comme je t'ai posée quand on est arrivé, tu te considères-tu comme un esprit rebelle, toi, Véro?
Je pense que oui. Je pense que, puis c'est ce que je me suis questionnée beaucoup parce qu'on est quand même cadré par un ordre,
tout
professionnel,
fait.
Donc qui est très cadré, puis je trouvais ça beige. Donc j'essaie quand même de sortir, de garder ma certaine couleur, authenticité par rapport à tout ça, tout en restant très cadré parce qu'on n'a pas le choix. Mais effectivement, des fois, ça me fait des petits clashs là, internes parce que justement, je veux pas être beige, en fait. Je veux pas être la sexo beige qui... Donc, j'essaie de sortir un peu de ce lot-là.
Oui, parce que, comme tu dis, oui, il y a un ordre professionnel. Puis en même temps, il est important, l'ordre professionnel,
pour
pas faire du n'importe quoi.
Oui.
Mais comment garder sa propre couleur au travers de ça? Bien, c'est ça un peu qu'on va explorer. On va en profiter. On va parler de sexe. On va parler de la sexualité aujourd'hui, en 2019. Il y avait des sujets, Charlotte, aussi, qui t'intéressaient. Puis on va faire couler tout ça au travers de ça. Puis on va s'intéresser peut-être aussi à Véronique, en arrière de la sexologue, un peu comment on fait, comment on devient sexologue, c'est quoi un peu le parcours de tout ça. Puis, ben la rebelle dans Véronique, personnelle, comment elle se manifeste aussi, tu sais.
C'est bon.
Fait que voilà. J'aimerais que tu nous parles un peu, Véronique, à quoi ça ressemble aujourd'hui, puis ce serait quoi, toi, tu nous parlerais la sexualité en 2019 avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, les différences corporelles, les différences, les genres aussi. J'aimerais ça t'entendre nous parler un peu de toi, tes observations.
Mes observations concernant la sexualité des gens d'aujourd'hui. J'aime la diversité. Je trouve que les gens acceptent beaucoup plus de choses dans la sexualité, donc la sexualité est de plus en plus authentique. Par contre, ce que je remarque, c'est que l'importance accordée à la sexualité est vraiment très grande par rapport à ce que, tu sais, la charge mentale, là. Mm-hmm. Ou est-ce que c'est super intense, ou est-ce que la femme doit être une bonne mère, une bonne amie, une bonne blonde, une bonne... Donc, tu sais, tout ça fait en sorte que la pression par rapport à la sexualité, parce qu'en plus, elle doit avoir le goût, oui, à chaque jour.
Oui, puis excuse-moi le mot, mais il faut qu'elle soit cochonne.
Ben oui, c'est ça, il faut qu'elle essaie... Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est ce que je vois, ouais, beaucoup ici, mm-hmm, à mon bureau, qu'à un moment donné, les gens perdent leur repère par rapport à tout ça, parce qu'ils en entendent tellement qu'ils se disent « ben je suis pas normale, moi, d'être comme ça ou de pas parce faire ça. »
Il y a tellement
ça,
une accessibilité,
ou...
maintenant aussi. Exactement. À la sexualité partout. C'est encore un sujet ultra tabou, mais en même temps, on voit le sexe, la sexualité, le corps de la femme partout aussi. Fait qu'il y a, oui, comme une espèce de confrontation aussi. De comme, ouais, on n'en parle pas, c'est tabou, mais... J'en vois partout, puis c'est avec la pornographie qui est super accessible.
C'est ça, puis ça, ça renforce les fausses croyances, mmh, par rapport à la sexualité, tu sais. Si je fais pas ça, mon chum va penser que je l'aime pas, mmh, tu sais, c'est très, très, très... Donc, il y a des croyances que je décortique beaucoup à chaque jour dans mon bureau, justement, pour rendre la sexualité authentique. Puis c'est ce que j'essaie de faire, justement, c'est qu'il y a pas juste un chemin pour aller vers une sexualité satisfaisante. Il y en, mm-hmm, a beaucoup qui se fient justement à des repères hyper précis. Mais écoute, c'est humain. On est des humains, là. On est chacun différent, là.
Je trouve ça intéressant. Sexualité authentique, qu'est-ce que tu veux dire par là?
C'est de s'assumer dans sa sexualité. Tu sais, tu as le droit de ne pas avoir envie. Tu as le droit d'avoir envie. Mais à partir de là, il faut que ça concorde. Faut s'assumer dans notre sexualité. C'est une sexualité où est-ce que tu peux apporter ta propre couleur. Tu sais, il y en a beaucoup que la sexualité, c'est pour faire plaisir à l'autre. Mm-hmm. Donc, on fait des choses pour l'autre. On fait pour lui procurer l'orgasme. On fait des caresses pour lui faire plaisir. Puis, à partir de là, moi, j'essaie de rendre ça un peu plus authentique. Donc, je travaille sur l'égoïsme dans la sexualité. Donc, de rendre ça un peu plus... équitable dans sa sexualité. Donc, c'est de l'assumer, cette sexualité-là, puis de rendre ça beaucoup plus authentique, justement.
Ça, tu parles beaucoup de lui et tout. Puis est-ce que toi, tu as une clientèle majoritairement féminine ou tu reçois des couples ou tu sens-tu que cette pression-là est plus ressentie chez les femmes?
Là, on
a ressenti une pression au lit aussi. Parce
énorme
que,
pression au lit.
C'est le syndrome de la performance.
Oui, exactement. Aussi, donc, tu sais, je trouve que l'anxiété de performance est présente autant chez les hommes que chez les femmes. J'ai l'impression, puis des fois, je le dis aux hommes, je dis, j'ai l'impression que vous avez tellement de pression. C'est comme si la satisfaction sexuelle ne reposait que sur votre érection. Ouais. Tu sais, à un moment donné, dès qu'il y a une panne, parce que ça peut être causé par quelque chose d'hyper banal, là, dès qu'il y a une panne, c'est comme, OK, là, ma vie sexuelle est finie, je ne pourrai plus jamais la satisfaire. Puis, tu sais, là, l'anxiété de performance. Mais ça dépend justement du bagage des croyances aussi de l'homme en question. Mais autant chez l'homme que chez la femme, il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété de performance.
Puis, est-ce que tu remarques une différence au niveau de l'âge? Dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, j'imagine, ça se vit pas pareil, ça se vit oui.
Bien, ça se ressemble beaucoup. En fait, je trouve que, tu sais, ce que je trouve triste actuellement chez les jeunes hommes, c'est que les médecins sont vite sur la gâchette du Viagra. Okay. Fait que moi, je reçois des jeunes hommes qui sont dépendants au Viagra. Ils ont 20-25 ans, sont dépendants au Viagra parce que... Puis c'est une dépendance qui n'est pas physique, là, c'est une dépendance qui est psychologique parce qu'ils se disent « si je prends pas ça, je ne serai pas capable de performer ». Donc, ils renforcent ça. Puis tu sais, c'est ce que je trouve triste. C'est tout est dans la performance. Ils doivent performer parce que sinon... Puis tu sais, on est à l'ère des Tinder et tout. Ouais. Donc, dès la première soirée, il faut que ça fonctionne. Parce qu'ils se disent, sinon, l'autre va partir.
Mm-hmm. On s'entend que One Night, c'est jamais notre meilleure base.
Ben non,
tout le monde est déçu. C'est jamais le fun d'un One Night, la première fois.
Mais c'est intéressant, j'avais jamais imaginé que... Parce que, ben oui, c'est sûr qu'il y a tout ce côté-là. Parce que Tinder, ou ces applications-là, ça a un impact sur la sexualité.
C'est immense.
Tu dois le voir dans... Ouais. C'est nouveau, là. T'sais, Tinder, ça fait quoi... 5 ans, 6 ans que ça...
Je pourrais pas dire, mais pas longtemps.
Mais tu sais, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans les relations interpersonnelles,
vraiment,
dans les relations sexuelles, dans la rencontre de l'autre. C'est quoi l'impact de ça que tu as remarqué? Au niveau de la performance, oui.
Oui, au niveau de la performance, mais au niveau de l'estime de soi aussi. Mm-hmm. Y a des gens là-dessus qui ont le suivant facile. Fait que dès qu'ils sont dans... Il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben c'est next. Puis là, l'autre est comme, OK. Ou ils donnent pas de nouvelles du tout. Tu sais, il y a comme des espèces de vagues, de ghosting, puis de qui font en sorte que la personne, son estime de soi est sabotée là-dessus. Là.
Complètement.
C'est complètement. Là, tout a un rapport avec le physique, puis c'est un catalogue, là, Tinder.
Oui, oui, ben c'est basé que physique, là. La personne, tout ce que tu vois, c'est une photo de la personne. C'est rare. Fait que c'est,
exact.
C'est rare que tu vas dire « Ah, je le trouve pas cute, mais je vais quand même l'accepter ou le swipe. »
Il est peut-être bien intéressant pareil.
Oui, c'est ça.
C'est ultra superficiel. Puis tu sais, même moi, je me suis lassée. J'ai déjà eu Tinder aussi. Puis j'ai embarqué dans le game. Puis je me tanne tellement vite. Parce que pour moi, c'est tellement... C'est tellement vide. T'sais, j'aime ça rencontrer des gens. On a perdu ce contact-là. T'sais. Puis peut-être que je me trompe, mais tu me corrigeras. Ça a un impact sur la sexualité et notre vision du contact avec l'autre.
Oui.
Tout ce qu'on voit, c'est une image. Puis on n'a jamais rencontré. Fait que là, on ne sait même plus comment rencontrer du monde en vrai. T'sais. On arrive devant l'autre personne qu'on rencontre comme avant. T'sais, tu fais une date dans un bar ou je sais pas, tu vas au cinéma ou tu apprends à connaître la personne. Là, ça, c'est plus là. T'sais. C'est t'apprends à connaître quelqu'un en message puis en photo. Il y a comme un contact intime qui n'est plus là. Fait comme ça, tu te ramasses dans une intimité extrême au lit. Puis là, ben, tu sais plus comment faire.
C'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est tellement rapide sur Tinder. Puis c'est pour ça qu'il y a eu comme une espèce de vague de, tu sais, des hommes qui envoyaient de la photo de leur corps pour être poli.
Mm-hmm.
Mais donc, c'est comme si, OK, là, gars, moi, je suis prêt à ça. Donc, c'est ça. Puis voici, il s'expose tout de suite parce que c'est tellement rapide.
Exactement. Puis des femmes aussi là, qui envoient photos de leur sein, photos de leur corps.
Ouais, oui.
Mais c'est intéressant parce que, tu sais, souvent, la sexualité aussi, elle est utilisée pour aller chercher de l'affection, pour avoir un contact humain, pour se sentir aimé. Et ça me questionne en me disant, est-ce que le fait qu'on est beaucoup sur les médias sociaux, qui est un peu superficiel, qu'il n'y a pas ce contact d'intimité-là, ce besoin-là de connecter avec les gens, bien, à quelque part, Tinder vient comme amener ou satisfaire, d'une façon pas très saine, là, mais ce besoin-là de rentrer vite en contact parce que, est-ce que l'humain est en manque de contact physique? Puis c'est ce qui fait que ça pogne encore plus. Ça l'entretient, ça, parce qu'il y a quelque chose de... Tu sais, moi, quand j'ai embarqué, puis je me suis rendu compte, moi, j'ai besoin de connaître l'autre, tu sais. Mais là, j'étais là, puis je me disais, tu sais, je swipais justement des bonhommes, du monde de mon âge, là, tu sais. Puis à un moment donné, quelqu'un qui me répond parce qu'il y a un match, puis écoute, c'était tout de suite dans le vif du sujet, puis j'ai fait comme, mais voyons
c'est
donc.
Quoi, qu'est-ce que t'aimes au lit?
Ils n'ont pas de temps à faire,
tu sais. Tu voudrais que je te prenne comment? Puis non, c'était hyper cru, tu sais. Tu fais comme, je me souviens, j'étais avec une de mes amies, puis elle me disait, ah, Caro, c'est chaud. Là, je fais comme, non, moi, ça me turn off, mais tu sais, au travers de ça, tu vois un peu ce qui est bon pour toi, puis pas, puis ce que t'as envie, puis pas, puis de. Mais tu sais, cette application-là me fait prendre conscience que, my God, on peut-tu juste essayer de se séduire un petit peu, tu sais?
Puis il y en a plein qui sont là-dessus juste pour la valorisation, qui sont pas là pour rencontrer, ils sont là juste pour avoir des likes puis des matchs pour voir si...
Vraiment.
Fait que, tu sais, non, c'est pas simple.
C'est un cercle vicieux, là. Tinder, les médias sociaux, tu veux, tout être humain veut avoir de la reconnaissance puis veut avoir de la valorisation. Fait qu'on veut tous faire dire qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on est attirant, qu'on est désiré. Puis là, tu l'as tellement vite, mais c'est ça, ça enlève vraiment le contact humain, en fait. Là. Mais je trouve que ça a aidé des gens, peut-être aussi, à se découvrir, à assumer des choses. Il n'y a pas juste du mauvais. T'sais, moi, je suis dans la génération beaucoup réseaux sociaux. Il y a du bon aussi, tu sais.
Quelqu'un qui
est trop gêné ou tout ça, qui permet de, ça lui fait faire des expériences, qui découvre, qui parle avec des gens, qu'elle serait même pas capable d'aborder quelqu'un en vrai.
Exact.
T'sais, fait qu'il y a quand même du positif aussi.
C'est sûr, on démonise beaucoup les sites de rencontres et les réseaux sociaux, mais c'est vrai que ça a vraiment du bon aussi. Là.
Qu'est-ce que tu as remarqué pour le bon par rapport à ça?
Ben pour le bon, c'est ça. T'sais, je pense que tu as apporté un bon point. C'est bon pour les gens qui sont plus gênés, qui sortent pas, qui ont pas nécessairement, qui ont un beat de vie, que, mettons, ils travaillent de nuit ou peu importe. Je veux dire, ils n'ont pas le temps d'aller rencontrer ou, tu sais, peu importe. Fait que, oui, ça peut avoir vraiment du bon, là.
Oui, puis peut-être même au niveau de faire des expériences, que la personne a peur du jugement, mais elle a envie de faire certaines expériences qu'elle pense depuis longtemps, ben d'aller cibler plus des gens. Donc, peut-être pas avoir ce jugement-là au niveau d'expérience sexuelle un peu
Oui.
Ben, pas hors norme, là, mais en tout cas, du moins qu'on a moins de facilité
à parler. Du
BDSM,
maman, du BDSM.
Ben oui, voilà. Allez, vas-y, ma fille, dis-moi les acronymes. Et de toutes les sortes, tu sais.
Ben oui.
Que ce soit
ben
juste
ouais.
une expérience homosexuelle, tu sais, d'avoir une relation avec une femme.
Ben oui.
Quand t'es une femme, puis tu veux l'expérimenter.
Tout à fait.
Bon,
que t'irais peut-être pas aborder quelqu'un dans un bar. Hey, tu
hey salut!
Que... qu'on fasse une expérience ensemble ce soir.
Un peu comme ça j'ai fait, puis que j'ai fait chou blanc parce que je ne savais pas trop comment ça marchait.
Mais ouais. C'est ça. C'est ça. Là-dessus que ça a du bon, là, oui.
Ouais.
Est-ce que tu as l'impression que plus, justement, qu'on a accès à du matériel, qu'on a accès à des fantasmes, à des contextes, des scénarios complètement disjonctés sur les sites pornographiques ou sur les, comme ça, les sites de rencontres et tout, des séries. Il y a une série sur Netflix, là, puis c'est du BDSM, là, tu sais, on n'aurait jamais vu ça avant.
Mm-hmm.
Est-ce que tu sens que les gens s'assouvit plus ou là, s'ouvrent plus à ça, qu'ils sont comme, enfin, ah, je peux assouvir ça? Ou qu'en fait, ça crée des besoins que les gens n'avaient pas. Tu sais, qu'est-ce
ouais.
que tu parles de ça? T'sais, qu'on a tellement accès à des fantasmes. Fait que là, on peut tout réaliser qu'est-ce qu'on a dans notre tête, qu'est-ce
ouais.
qu'on veut faire. Est-ce que c'est sain ou c'est malsain, ça?
Écoute, c'est sain, oui, à quelque part, c'est là, tant mieux. Pour justement alimenter l'imaginaire érotique, pour
ouais.
Justement te donner un peu plus de piquant. T'sais, des fois, on manque d'idées, puis ça peut être une bonne source pour alimenter ça. Par contre, il y en a pour qui ça devient rapidement une dépendance.
Ouais.
Tu sais, quand on parle de... Moi, je vois ça beaucoup ici, la dépendance à la pornographie. Ce que ça évoque dans le couple, ben c'est que la sexualité devient que virtuelle.
Ouais.
Puis souvent, l'homme a de la difficulté, justement, à être excité dans un contexte réel parce que l'écran le fait à sa place tout le temps. Fait que, tu sais, puis quand on regarde la pornographie, l'excitation monte tellement en flèche...
Ouais.
Contrairement, mais pas contrairement, mais dans le sens que ça augmente un peu moins rapidement dans un contexte plus réel. Donc, ça fait en sorte que le corps répond moins bien. Fait que c'est souvent une de mes premières questions face à la panne érectile ou face au fait que l'homme a plus de difficultés à atteindre l'orgasme. Je lui demande tout simplement si la consommation de pornographie occupe une très grande place dans sa vie. Puis souvent, c'est ça.
Ouais, la pornographie, c'est vraiment quelque chose qui... C'est tellement pas comme ça que ça se passe. Il n'y a rien que tu
ça.
Vois dans un film porno que ça va se passer comme ça. Là. C'est des scénarios, c'est des acteurs. C'est,
ouais.
c'est une mise en contexte parfaite. Ça se passe jamais comme ça en vrai. Ben puis je le vois, moi, beaucoup avec ma génération. Les gens dans ma vingtaine ou même ma génération avant, là, là, à 16, 17, 18, ils vont avoir vu de la pornographie avant même d'avoir vu un corps nu. Un vrai corps devant eux, nu. Donc,
c'est leur éducation sexuelle.
Moi, j'ai vu
sexuelle.
Un corps nu avant d'écouter la pornographie. C'était venu après dans ma génération, moi, dans mon éducation sexuelle. Mais puis ça fait vraiment... Il y a un clash énorme.
Ben oui.
Parce que là, tout ce que tu as vu, toi, dans ta tête, c'est un scénario parfait avec du monde parfait qui... Tout se passe comme super. Puis la fille, elle joue super vite.
Un corps parfait, oui.
Il y a le corps parfait aussi. Le gars, il a un gros pénis. La fille, elle a des gros seins. Puis tu sais, bon... pas de poils.
Puis elle crie, puis exactement. L'orgasme.
Là, t'arrives en vrai, puis t'es comme, tu sais plus quoi faire.
Oui. Puis il y a le gros clash entre la fille qui a jamais vraiment regardé de la pornographie, puis le gars qui a vraiment regardé beaucoup de pornographie.
Ouais.
Donc, il y a un clash aussi à ce niveau-là, parce que les filles sont moins tentées au départ. Tu sais, ça fait moins partie de leur éducation sexuelle, la pornographie, mais tandis qu'on dirait que les hommes, ça fait un peu plus partie. Donc, quand il y a un couple où est-ce que le conjoint comprend pas trop pourquoi que sa blonde veut pas faire telle chose ou telle pratique ou telle chose parce que pour lui c'est normal parce qu'il a vu ça
toutes les filles font ça dans
toutes
les films puis
ouais c'est ça toutes les filles font ça dans les films puis ben si elle fait pas c'est parce qu'elle est donc ben pas ouverte elle est donc ben pas tu sais
ouais.
Fait que là à ce moment-là il y a un gros clash là tu sais dans la relation là donc on recadre un peu tout ça là, puis je ramène toujours à la sexualité authentique ouais mais elle a des certains intérêts peut-être qu'elle a d'autres choses tu sais donc on recadre un peu par rapport à tout ça.
Tu penses qu'il y a encore un gros manque de communication dans le couple par rapport à la sexualité? On parle de communication,
oui.
Mais vraiment de parler ouvertement de sa sexualité avec son partenaire, puis dire « moi, j'aime ça, ça, j'aime pas ça », on a encore beaucoup de chemin à faire.
C'est encore très difficile parce que on veut pas blesser l'autre.
Mm.
Tu sais, quand il y a des choses, ben j'aime moins ça quand tu me caresses de telle façon. Des fois, on a peur de la réaction de l'autre, on sait pas trop comment il va réagir, on veut pas le blesser, on veut pas le décevoir, mais en même temps, cette communication-là est tellement nécessaire pour justement que ce soit satisfaisant. On est responsable de notre propre plaisir. Si tu n'as pas de fun dans ta sexualité, ben c'est un peu... T'es un peu responsable de tout ça si tu le dis pas. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que la communication est nécessaire. Mais c'est pas comme parler d'une liste d'épicerie. Là. On est loin de ça.
Oui, puis encore autour de la femme, de comme tantôt tu disais, c'est moins dans l'éducation sexuelle des jeunes filles, de regarder la pornographie, c'est plus. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est parce que les femmes, on leur donne pas la place d'en parler de sexualité? Mm-hmm. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même. Qui a toujours parlé de sexualité, qui a quand même été ouverte là-dessus. Tu le sais aussi. Je me suis jamais gênée, puis j'ai toujours été vue comme un peu plus sexuelle que, mettons, quand j'étais ado, tout ça. Puis c'est très, très tabou, là. T'sais, une femme, ça parle pas de sexe, tu sais. Mais non. Un homme, par exemple, ça peut en parler que ça regarde la porn, puis que ça l'a couché avec 50 filles, puis va être comme « Oh yeah, mon chum, t'as couché avec 50 filles », puis ça va être bien vu, la fille, ça va être une salope.
Ouais.
Fait que c'est ce truc-là aussi de est-ce que ça fait moins partie de notre éducation ou c'est juste parce que la société encore où les gens ne laissent pas la place aux femmes de parler de sexe parce qu'une fille, ça devrait pas aimer ça, puis ça devrait pas vouloir ça, ça devrait être soumis puis accepter ce que l'homme veut qu'elle fasse. T'sais.
Ouais, mais c'est drôle que tu m'apportes ça parce qu'effectivement, t'sais, on a tellement de croyances que les femmes sexuelles, justement, c'est mal vu. T'sais, y en a beaucoup qui ont encore ça d'ancré, donc ils ont de la difficulté à s'ouvrir dans leur sexualité. Ils ont de la difficulté à explorer des choses. Donc, ils restent dans une sexualité qui est très cadrée. Puis là, ils viennent me voir parce qu'ils ont une baisse de désir, mais c'est parce que leur sexualité est tellement prévisible. Ils sont restés dans un cadre hyper précis. Donc, tu sais, moi, je les amène à explorer un peu plus d'autres choses. Tu sais, juste pour sortir un peu de leur cadre, de leur fausse croyance, justement, par rapport à ça. Là. Puis.
Oui, croyance que c'est ça, la société a mis... Exact. Ça fait longtemps, là, tu sais, ça fait
longtemps. Ben oui.
Non, mais tu sais, c'est ce que tu racontes là, tu sais, je regarde, mettons, dans les années 90, j'étais dans la vingtaine, puis j'avais quand même une sexualité qui était assumée à ce moment-là, et tu me racontes encore, tu sais, ce que tu as pu vivre, cette difficulté-là d'en parler, encore en 2019... Écoute, on parle d'un quoi, 39 ans, là? Il y a quand même... C'est ça, 39 ans? Ouais. En tout cas, 29 ans. C'est une grande différence, tu sais, de voir qu'en aussi de temps, on n'est pas plus évolué au niveau de cette ouverture-là, de discuter. Puis l'explication que j'aurais, c'est qu'à la maison, il y avait quand même cette communication-là entre nous, cette ouverture-là que j'avais créée, qu'on avait parlé de la sexualité, de par mon travail, que je travaillais en VIH à cette époque-là. Donc, moi, j'avais amené ma boîte avec toutes mes sortes de condoms, puis comment...
Son pénis en bois, puis j'avais 12 ans, puis elle m'avait montré comment mettre un condom sur un pénis en bois, tu sais. On avait parlé à maman. Elle m'a parlé, tu masturbes-tu, Charlotte? T'as 12 ans, t'es comme, tu veux pas parler de ça avec ta mère, là?
Raconte!
Mais tu penses-tu, toi, Véro, qu'il y a quand même, les parents ont un rôle à jouer,
ah ouais,
quand
important.
Même?
Ah oui, important. Oui, important. Puis, tu sais, autant que ceux qui n'en parlent pas, que ceux qui en parlent, mais de façon très, tu sais, non, touche pas à ça, c'est mal, c'est fais attention.
C'est
ça,
sale.
Oh, oui, ben oui.
Fait autant de ne pas en entendre parler que d'en entendre parler de façon un peu, tu sais, dysfonctionnelle, ça peut créer des impacts, là. Tu sais, même si la personne veut sortir de ce cadre-là, on dirait qu'il y a toujours ça en arrière d'elle qui se répète tout le temps. Donc oui, l'éducation sexuelle, c'est hyper important à la maison parce que justement, juste d'ouvrir la porte. Tu sais, justement, garde, j'ai des condoms, si jamais tu veux en parler, on peut en parler. Puis tu sais...
Tu sais, dans toute l'histoire, la sexualité a toujours été mal vue. C'était un péché, tu sais, c'est la fidélité, puis pas de masturbation. Tu sais, on recule dans l'histoire. Fait que je veux pas ça, c'est inculqué, là. Que moi, ça n'a pas été dans mon époque à moi, mais c'est nos arrière-grands-parents, nos grands-mères, nos mères, tu sais, c'est comment qu'eux parlent de la sexualité. Comme tu dis, c'est de la façon que tu entends parler de la sexualité, tu sais.
Exact.
Dans
c'est,
ton
c'est
entourage autour de toi, ça va être ça, tes repères, tu sais.
Ben oui, puis toute la religion qu'il y avait, en tout cas, du moins, si on parle au Québec, qui a pris une grande place dans les années 50, 60, puis que ça l'a vraiment fucké la perception qu'on peut avoir par rapport à la sexualité, tu sais.
Vraiment.
Puis de la reproduction, comme si c'était que à ça que ça sert, tu sais.
Mais ça, je reviens ça avec la femme. Oui. Elle n'a pas le droit d'avoir du plaisir, non. Parce qu'elle, son organe génital, c'est juste fait pour avoir un bébé puis pour reproduire. Donc, le clitoris, tout ce qui est le plaisir, c'est comme... Mm-hmm. Encore aujourd'hui, en Afrique, des jeunes filles se font exciser. Là, donc, c'est encore d'actualité que la femme n'a pas le droit d'avoir de plaisir. Mm-hmm. Elle n'a pas le droit d'en parler. Fait, quand on arrive dans un contexte de couple, ou comme tu dis, une communication, mais là, que la femme, elle dise super ouvertement, sans tabou, « Moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que je vais... » Oh, attends une minute, là, tu sais, il y a comme des barèmes qu'on n'a pas été habitué à ça en tant que femme.
Non, c'est ça, exact, oui.
Puis la perception à ce moment-là sur la femme, bien, advient que la tienne, les autres autour de toi, tu sais, puis... T'as-tu... est-ce que le mouvement MeToo qu'il y a eu, est-ce que t'as vu quelque chose qui a été libérateur pour les gens,
ça,
autant hommes que femmes? Oui. J'imagine que tu dois l'avoir senti dans ton cabinet.
Je l'ai senti de façon très positive parce que, justement, ça l'a incité des gens à s'ouvrir sur des choses, tu sais. Puis ça a créé vraiment un mouvement hyper positif. Ça a créé aussi une crainte par rapport aux hommes. Les hommes, ils ont comme fait, « OK, mais là, maintenant, qu'est-ce que j'ai le droit? » Est-ce que j'ai le droit d'aller cruiser une fille sans... Tu sais, ça a créé comme...
Et où la limite?
Et où la limite?
Ouais. C'est on dirait dans un bar, une fille est belle ou...
J'ai-tu le droit d'aller dire qu'elle est belle?
Si je mets une main sur une épaule, c'est-tu vu comme...
C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Donc oui, ça a été hyper positif, puis il faut que ça se poursuive comme ça. Mais j'ai senti que les hommes se sentaient un peu sur la corde raide par rapport à tout ça, là.
Tout à fait. Puis aussi, avec le mouvement MeToo, il y a aussi un gros mouvement, puis toi, tu travailles beaucoup avec les couples, d'abus, il y a un terme pour ça, mais dans un conjugal, là. Dans le fond, tu sais, que l'homme, mettons, oblige sa femme à avoir des relations sexuelles, mais qu'elle veut pas, mais vu que c'est un couple ou son mari, tu sais, il y a une espèce de...
Ouais.
C'est très, très... La ligne est super mince entre... puis ça, il y a beaucoup de femmes aussi qui se sont ouvertes là-dessus, tu sais, qui ont vécu de l'abus sexuel, mais dans leur propre couple.
À l'intérieur,
maison conjugale, tu
sais. Oui. Parce que, ben ça aussi, ça vient un peu de la religion, de dire, ben t'as pas le choix, faut que t'acceptes que ton mari, tu sais, ait une relation sexuelle avec toi, puis il y en a plusieurs qui se sont comme, bon, c'est ce que j'entends, je m'ouvre les jambes, puis j'attends que ça passe. Tu sais, à un moment donné...
Ça, c'est un abus.
C'est
un abus sexuel.
Ben oui, c'est ça, exactement.
Mais là, d'aller te défaire dans
les croyances.
On revient toujours aux croyances, en fait.
Tout le temps.
Pour toi, la sexualité... C'est beaucoup, c'est des croyances.
C'est ça que je défais beaucoup. C'est les croyances. Puis comme tu disais, ça vient de loin, mais c'est tellement ancré de génération en génération que c'est ça, c'est ça qu'il faut décortiquer.
Oui, puis tu peux pas séparer la sexualité de la psychologie.
Ben non.
C'est tout par rapport à ton histoire, ce que tu as vécu, ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Oui. Donc, tu sais, moi, je parle beaucoup de la part de Lunette avec la coach rebelle, tu sais. Donc, c'est ta perception que tu as par rapport à toi-même, puis tout le bagage que tu traînes, tu sais. On parle, tu sais, Charlotte, avec tout ce que tu as étudié au niveau de la neuroscience, puis tout le cerveau, tous les circuits neuronaux qui se sont créés.
Oui.
Tu sais, il peut avoir des actions, un geste, une odeur... une position, tranche de vie. Quand j'étais tout petite, à mon âge, j'avais pas Internet, donc la porno était pas accessible, tout ça. Mais j'avais trouvé en dessous du lit de mes parents une boîte avec un film. Mais tu sais, les films 8 mm, là.
OK.
Donc, et j'avais réussi, fouille-moi comment, à mettre ça sur le projecteur à un moment donné. Puis de
un même projecteur. Projecteur. Ouais,
J'avais cette curiosité-là parce que moi, ma marraine m'avait acheté tout. À l'époque, il y avait des petits livres qui, sur le corps, sur la sexualité, tout ça. Puis là, de mettons, 5-6 ans, après ça, 7-8 ans. Fait que j'avais eu ça, fait que j'avais comme un éveil qui était là. Et bon, j'avais vu ça avec des photos, puis... il y avait eu une image qui était apparue dans ça, qui m'avait marqué, la fille en levrette avec le gars par en arrière. Et je me souviens les premières fois dans ma sexualité, quand il y a eu cette position-là, le malaise. Mm-hmm. Il y avait comme quelque chose que j'ai vu à un âge que je n'avais pas besoin de voir, puis qui avait eu une connotation. Puis après ça, je m'étais sentie comme un peu salope ou pute ou... Et il a fallu que je défasse ça.
Ben
tu sais, oui, nos images qu'on encode, ça a une influence et un impact dans notre sexualité.
Oui.
Si on n'est pas capable d'en parler, si on garde ça pour soi, si autour de soi, il n'y a pas des gens... C'est quoi les conseils que tu donnes aux gens qui vivent ces difficultés-là? Oui, d'aller consulter quelqu'un, mais comment une personne peut arriver à aller chercher de l'information ou du moins pour pouvoir parler, disons, ventiler au travers de tout ça?
Oui, bien, c'est surtout à l'intérieur du couple. Mm. Tu sais, c'est ça qui est important aussi. Tu sais, l'autre va comprendre aussi de quelle façon l'autre perçoit la sexualité. Tu sais, quand je reçois un couple ici, c'est une de mes premières questions. C'est quoi votre perception de la sexualité? Comment vous voulez la vivre, cette sexualité-là? Mm. Puis souvent, ils s'en ont jamais parlé. Ils la vivent, mais...
Ils ne se sont jamais posé la question.
Ils se sont jamais posé la question. Donc, puis au final, on se rend compte qu'ils ont deux perceptions complètement différentes, mais ça aide à la compréhension. « Ah, c'est pour ça que tu réagis de telle façon quand je fais telle chose. » Ou « C'est pour ça que, bon... » Fait à partir de là, c'est il faut en parler à l'autre, même si ça crée un certain malaise ou un certain inconfort, il faut en parler à l'autre, c'est super important. Puis à partir de là, bien, si vous avez l'impression de tourner un peu en rond puis de pas trop savoir quoi ressortir de tout ça, bien, c'est sûr que je vais suggérer d'aller consulter une sexo ou un sexo justement pour les aider à décortiquer tout ça puis justement débattre un peu sur les croyances de chacun, là.
Oui, parce qu'il faut que tu développes des capacités d'introspection, donc d'être capable toi-même de savoir c'est quoi tu veux, tu sais, c'est quoi la sexualité, c'est quoi ta perception, c'est quoi... Fait que donc, il y a ça qui mm-hmm. est un défi en soi,
oui.
hein, de se connaître, d'apprendre à se découvrir soi-même puis de connaître sa propre histoire aussi. Fait que avant d'arriver à parler de la sexualité, il faut être capable de se connaître soi-même et d'être en contact avec soi-même, autant émotivement, psychologiquement. Donc, il y a tout ce travail de fond-là aussi qui a besoin d'être fait au travers le parcours de vie pour arriver à communiquer facilement au niveau de la sexualité avec son conjoint ou sa conjointe, t'sais, avec la personne avec qui tu partages ta vie, dans le fond.
Tellement, t'sais. Tellement. Mm. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui ont l'exploration personnelle, cette introspection-là, ils ne veulent pas aller là.
Non.
C'est comme une zone de vulnérabilité où est-ce que... Mais, puis là, après ça, ben, ils disent que leur sexualité n'est pas nécessairement satisfaisante, mais à partir de là, il faut que tu fasses cette introspection-là pour te connaître, mm-hmm. pour justement assumer cette sexualité-là.
C'est-tu plus facile, dans ta génération, Charlotte, de parler de sexualité authentique? Tu sais, quand on parle de sexualité authentique,
sexualité
j'aime bien le terme.
Sexualité authentique, je sais pas. Là, une sexualité vulnérable, je sais pas. On parle beaucoup de sexe. C'est plus tant un sujet. Ben c'est ça, on parlera pas de sexualité comme tu dis, tu sais, de authentique, vulnérable, tu sais, de qu'est-ce
non,
qu'on...
Non, ça fait un peu cucu, probablement.
Ben, ouais. Pas que ça fait cucu, mais ouais. c'est quelque chose qui est intime, là. Tu sais, moi, ouais. je commencerai pas non plus à raconter, mais pour vrai, moi, c'est pas un sujet que le monde... La discussion finit vite par tourner autour de la sexualité, que ce soit avec des amis, mm-hmm. en train de prendre un verre. Les gens aiment ça parler de sexualité. Je trouve que les gens s'assument beaucoup plus. Les gens sont peut-être plus épanouis ou se laissent épanouis, je sais pas, mais au moins, ils se laissent la liberté d'essayer des choses, d'en parler. Puis ça, l'accès à l'information, je pense qu'il a aidé beaucoup pour ça aussi. Oui. Les gens qui se sont rendus compte que... Un coup d'homme, moi j'écoute juste la pointe lesbienne, je trouve juste ça beau quand il y a deux filles qui s'embrassent, mais je l'ai jamais essayé. Ah, ben je vais peut-être l'essayer. Puis mm-hmm. finalement, se rendre compte que sexuellement, ils vont être bisexuels ou finalement, peu importe, mais je trouve que ça laisse cette place-là. Puis moi, je trouve ça sain. Mais moi, oui. ça m'a aidé dans ma sexualité aussi d'avoir accès à cette information-là. Puis on en parle beaucoup. Je trouve que. Mm-hmm. Je pense qu'on en parle plus de ma génération que la tienne.
Ben je pense, moi aussi, parce que j'en vois beaucoup de ton âge que. Leur premier réflexe, c'est d'aller consulter. Parce que c'est beaucoup moins tabou qu'avant d'aller consulter. Puis, c'est encore là une de mes premières questions. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour essayer d'améliorer la situation? Puis souvent, ce que j'entends, c'est « ben rien. En fait, je suis venue te voir. » Puis je trouve ça hot, tu sais, que c'est pas tout le monde là, qui est à l'aise d'aller raconter tout ça à quelqu'un qui connaît pas, tu sais.
Je pense qu'il y a une envie de s'épanouir tout court.
Oui.
Que ce soit dans la sexualité ou dans sa vie en général, je trouve ma génération de plus en plus, il y a une envie, on veut être heureux, on veut être épanoui dans toutes les sphères de notre vie. Puis les médias sociaux, moi, je suis plein de comptes qui sont ultra sur la diversité, qui vont parler de. T'es pas obligé de mettre de brassière, puis le mamelon, c'est pas nécessairement sexuel, puis t'en laisses pousser ton poil. Puis, tu sais, il y a comme un peu aussi, on défait un peu aussi là, toutes les stéréotypes sociaux ou les règles sociales, les normes qu'on s'est fait dire qu'une fille, il faut pas que ça aille de poils, faut pas que tu vois ça, puis faut pas que tu vois ci. Puis là, c'est comme, attends une minute. Là.
Ah ouais,
je veux montrer mes seins, c'est des seins, c'est pas nécessairement sexuel. Fait qu'il y a comme cette réappropriation-là de notre corps. T'sais. Je parle pour la femme parce que j'ai l'impression que ça touche plus la femme, cette réappropriation-là de son mm-hmm. corps aussi. Puis de dire, c'est pas je suis pas juste un être sexuel parce que je suis une femme, tu sais, j'ai autre chose aussi.
C'est beau ça, cette évolution là. Moi j'adore
vraiment.
Ça.
Tout à fait.
Les gens qui viennent consulter, est-ce que c'est plus comme tu dis, c'est de tout âge?
C'est de tout âge. J'ai même des personnes, je pense que mon plus vieux client avait 77 ans.
Wow.
Puis je trouvais ça tellement hot. Ben oui, cette personne-là venait de rencontrer quelqu'un de nouveau. Puis là, tu sais, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant.
Tu sais, la sexualité, c'est au cœur de nos vies. Tu sais, c'est des besoins, là, tu sais, dans la pyramide de Maslow, la reproduction est autant que manger, puis boire, puis dormir, tu sais, donc c'est important d'être satisfait sexuellement dans sa vie, tu sais, que ça soit que tu sois en couple ou pas, satisfait avec toi-même, peu importe, mais les gens, qu'est-ce que tu penses des gens sexués? Tu sais, les gens qui n'ont aucune envie...
Ben, c'est une orientation sexuelle. C'est considéré ça, ben comme une orientation... C'est ça, exactement, fait que... T'sais, qu'est-ce que je pense
aussi.
C'est ça, c'est correct,
c'est fou maintenant avec tout, on ouvre un éventail d'orientation sexuelle, de genre sexuel, avec les transsexuels, queer, transgenre, asexués, bisexuels, lesbiennes, tu sais, c'est fou maintenant, tu sais.
Ouais.
Toi, j'imagine, t'as vu ça dans ton bureau aussi évoluer, tu sais.
Ouais, j'ai vu ça évoluer, puis mais il y a une chose par contre, c'est que on dirait que les gens ont besoin de cadre. Puis je trouve que c'est pas nécessaire. Dans le sens que, ils viennent, puis ils se questionnent sur leur orientation, puis là, ils veulent vraiment savoir en sortant du bureau s'ils sont homosexuels ou s'ils sont hétérosexuels. Mais, tu sais, j'essaie de leur dire, mais ça change quoi pour toi d'être dans ce cadre-là? Tu sais, à quelque part, on tombe en amour avec une personne, fait tu sais, puis encore là, on retombe dans les croyances. OK, est-ce que la perception de l'homosexualité dans la famille, dans, tu sais, dans les amis, c'est quoi? Puis, tu sais, donc, je trouve que ça, les gens essaient de se rentrer dans un cadre qui n'existe pas. Tu sais, on se définit pas en tant que « Salut, moi, je suis Véronique, je suis hétérosexuelle ». Tu sais, on se définit pas comme ça. Fait que, tu sais, je trouve que ça rentre un peu dans un cadre très précis. J'aime l'ouverture, j'aime le fait que, oui, ça existe, donc tant mieux. Mais je pense pas qu'on ait besoin de ce cadre-là. Je pense que ça rassure plus que d'autres choses. Ouais. Là.
Ben, je pense que la liberté, on la veut. Il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par ce besoin de liberté-là. Mais la liberté va amener énormément d'insécurité aussi, pour plein de raisons. Il y a quand même une éventail de choix, donc une liberté d'être réellement ce que tu veux être. Puis en même temps, c'est comme, ah, il y a trop de choix. C'est comme, ça peut venir à ça. L'exemple, pas rapport, là, mais en restant à Mégantique, c'est une fille qui vient de Montréal. Puis quand je me cherchais une paire de souliers, à Montréal, des magasins de souliers, il y en a pour les fous et les pains. Les fins, puis souvent j'arrivais chez nous, je n'avais même pas parce que je n'avais trop.
Il y avait trop, oui.
Mais là, à Lac-Mégantic, il y a une boutique que j'aime leurs souliers, puis je vais là, puis j'ai ça, puis je me contente de ça. Je sais que pourquoi? Parce que le choix est restreint, donc c'est beaucoup plus facile, donc plus sécurisant. Il y a toute une question de sécurité au travers de cet éventail de choix-là. Puis au contraire, comme tu dis, mais tu sais, je pense que ça va prendre du temps avant qu'on accepte. Puis que les générations futures acceptent qu'ils peuvent être sans mettre une étiquette.
Oui, c'est ça.
Puis on le voit aussi au niveau de la santé mentale, tu sais, les étiquettes de l'anxiété, du TDAH, donc de s'enlever ces étiquettes-là, puis juste d'être qui tu es, puis que c'est OK d'être qui tu es. Mais ça, tu sais, quand on parle de croyance, on parle que c'est là, fait que ça va prendre un certain temps avant de défaire tout ça, tu sais.
Tout à fait. Mais c'est à force d'en parler qu'à un moment donné, ça va se défaire tranquillement. Ouais.
Comment Véro, la sexo, est devenue la sexo? Si on tombe plus dans Véronique, pour faire la différence, j'irais comme ça.
Ben oui.
Véronique, comment elle est venue à être sexologue et à s'en aller dans ça?
J'ai toujours été une passionnée du couple, de l'amour. Je ne sais pas si vous vous rappelez du magazine Corps et âme qui existait dans le temps.
Ça me dit vaguement quelque chose.
En tout cas, bref, c'était des chroniques sexo, c'était des chroniques de couple, puis j'étais abonnée, puis tu sais, j'étais ado, puis je lisais ça, puis je trouvais ça donc bien intéressant, puis moi, j'étais là, un jour, je vais écrire dans ce genre de magazine-là, tu sais. Puis c'est ça, j'en ai fait mon but ultime, puis Au final, c'est ça, je suis allée en sexo. Au départ, je voulais aller en psycho pour plus être dans la psychologie du couple et tout, mais au final, je me suis dirigée plus vers la sexo naturellement.
T'as-tu des préjugés ou c'est quand tu dis « moi, je suis sexologue dans la vie », tu sais, gens qui posent des questions, c'est-tu intriguant, excitant, ils ont des jugements, c'est sûr que...
Ben moins.
C'est
moins
un métier un peu...
Moins que quand j'ai dit que j'allais en sexo. On dirait que dans les 10 dernières années, là, les tabous et tout, ils se sont comme un peu effacés. Mais oui, ça existe. Les gens, ils disent « OK, qu'est-ce qui se passe dans quel genre de consultation que tu fais? » Qu'est-ce qui... Mais il y a beaucoup moins de jugement qu'avant. Là,
ça a beaucoup évolué.
Mais
encore
oui, ça,
une fois,
ouais, 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 vraiment. Vraiment.
Puis comment que ça a réagi autour de toi, soit autant tes amis que les gars autour de toi? Quand t'étais ado, puis t'as décidé que tu
J'ai pas senti de jugement. J'ai vraiment pas... C'est ça, je pense que c'est ce qui m'a donné le boost de tout ça. Ma famille était super ouverte à ça. Je pense qu'ils étaient moins ouverts à ce que je déménage à Montréal pour le faire que j'étudie en sexo. Mais non, c'est ça. Ça a été super bien accueilli. Fait que ça m'a donné aussi la drive de poursuivre là-dedans. Puis j'ai jamais regretté ce choix-là. Là.
Puis toi, ton but, tu es quand même beaucoup active sur Instagram. Tu fais des vidéos, c'est drôle. Tu en parles d'une autre façon. Ton objectif derrière ça, en faisant pas juste de la consultation, ta vision, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais que la sexualité devienne? T'sais, tu fais ce métier-là avec une lignée puis un espoir de quand même quelque chose, tu sais, ça serait quoi?
Je veux dédramatiser ça. Tu sais, je veux que ça soit accessible comme discussion. Je veux que les gens se sentent à l'aise avec leur sexualité, tu sais, puis c'est là-dedans que je me dirige, tu sais, je comprends que la sexualité, ça vient chercher beaucoup de gens, beaucoup de vulnérabilité, mais tu sais, on dirait que je souhaite que tout ça soit dédramatisé puis qu'ils se sentent bien là-dedans dans leur sexualité. Fait que c'est un peu là-dedans. C'est pour ça que je fais ça comme hyper léger.
Il y a beaucoup d'humour dans tes vidéos.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'humour parce que je dédramatise beaucoup de choses. J'essaie quand même d'apporter des informations qui sont pertinentes aussi. Je veux dire, je veux quand même apporter quelque chose de nouveau, mais tu sais, tout ça sur un ton léger, puis je pense que c'est ça ma couleur, en fait, dans la sexo. Puis on me le dit des fois, quand ils viennent me voir, t'es comme une amie avec de l'expertise là-dedans, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que je me vois aussi. Tu sais, je veux avoir ce contact-là avec l'humain.
Ouais, ben tu le dis, hein, je suis votre partenaire, t'sais.
Oui,
et
ça.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce mot-là, tu sais, d'être la partenaire, parce que c'est ça, dans le fond... Tu deviens,
moi, j'accompagne. Je veux pas la hiérarchie. Je veux pas... Ici, là, je veux pas être comme celle qui connaît tout de la sexualité. Puis c'est pas ça. C'est que moi, je les dirige. Je les dirige dans leur cheminement. Je les accompagne là-dedans. Je veux voir un peu. Puis c'est un peu comme ça. Tu sais, les gens qui me demandent, OK, tu t'attends à ce qu'on fasse combien de rencontres puis vers quoi qu'on se dirige? Bien, je le sais pas. Là, aujourd'hui, on se voit. Tu veux-tu qu'on se revoie la prochaine fois? OK. Donc, à partir de là, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qu'on se voit pas. Tu sais, on est humain, là. C'est pas une science exacte, là. Donc,
c'est un cheminement aussi.
C'est ça, exact.
Oui, parce que tu te confrontes, en soulevant des choses, ben il y a d'autres choses peut-être qui vont ressortir en dessous, puis tu peux pas le savoir à ce moment-là.
Ben non, c'est ça, exact.
C'est bien évident, tu sais. Puis d'emblée... moi, ce que je trouvais trippant, tu sais, je pense que je l'ai dit un petit peu au début, c'était justement ce que je voyais de toi, ce côté rebelle-là, tu sais, c'est d'amener, tu sais, puis l'esprit rebelle, de faire un peu différent des sexologues, même si tu as un ordre professionnel, puis ils doivent mettre leur nez aussi, j'imagine, au niveau des médias sociaux, puis tu sais, fait qu'il y a des choses qui... Et t'as quand même fait ce choix-là d'aller vers ça, puis de rendre accessible un sujet pour justement dédramatiser, tu sais.
Oui.
Est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu as puisé à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui a bougé pour te dire, ben j'y vais, tu sais, je le fais quand même, puis j'y vais.
Je sors un peu du cadre.
Ouais, c'est ça.
Ben j'ai testé les limites. J'ai testé les limites de l'homme.
J'adore.
puis bon, ils m'ont recadré. C'est correct. Ouais. Je veux dire, l'ordre est fait pour ça, là. Je veux dire, puis, ben c'est ça, je poursuis dans une façon un peu plus cadrée, mais j'essaie de garder au maximum ma couleur aussi. Puis, tu sais, ça se passe bien de cette façon-là. J'ai réussi à amener ma créativité dans un contexte qui est plus cadré. Donc, j'ai réussi à trouver cette espèce de ligne. Tu sais, c'est ça, là, j'ai l'impression de toujours marcher sur la ligne. Là, mm-hmm. Mais je pense que chaque personne a son intervenant. Tu sais, je sais que je plais pas à tout le monde, puis c'est correct aussi. Ben il y a tellement de différentes sortes d'intervenants. Mmh. Puis,
tout à fait.
Tu sais, puis d'un autre côté, il y a d'autres intervenants. Tu sais, fait qu'on se complète tous là-dedans. Moi, j'ai cette couleur-là, puis ça me satisfait. Puis on parlait d'authenticité. Mm-hmm. Je pense que dans l'intervention qu'on fait, c'est important d'avoir cette authenticité-là. Sinon, la personne le ressent tout de suite. Là.
Mm. Ça, c'est important de ne pas te dénaturer puis de rester toi-même dans ton intervention.
C'est ça, exactement.
Mm. Puis je trouve ça intéressant parce que tu sors tellement de mots qui ont rapport avec nous quand on a mis un peu notre mission des esprits rebelles, puis qu'on a sorti des mots puis des valeurs, créativité, mm-hmm. authenticité, sa couleur, mm-hmm. de tester un peu les cadres puis de trouver sa place au travers de tout ça.
On est tous un peu des revendicateurs un peu à l'intérieur de nous aussi. Là,
je vais aller là voir.
Ouais, c'est ça. Allez voir. Ça c'est pas parce qu'on me dit que c'est ça, que c'est ça le bon chemin. Là, oui, je vais aller voir l'autre bord. Qu'est-ce que...
exact.
Est-ce que c'était là déjà d'avance, ouais. quand tu étais plus jeune, ouais. ado? Si tu voulais nous parler un petit peu de ça aussi, parce que je trouve ça important de parler de l'humain en arrière, de cette couleur-là qui t'habite, tu sais.
Oui, mais en fait, j'ai jamais été une grosse rebelle. Là, je veux dire, je me suis jamais hyper rebellée. Mais j'ai toujours, justement, testé les limites, testé les cadres. Mais j'ai jamais dépassé, mais j'avais besoin de cette liberté-là. Même encore aujourd'hui, là, mm-hmm. c'est pour ça que je suis entrepreneur. J'ai besoin de cette liberté-là, j'ai besoin d'assumer tout ça. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est de cette façon-là que moi aussi, je me qualifie un peu de rebelle par rapport au cadre.
Ben c'est ça, être rebelle, c'est à l'intérieur de nous. Ouais. C'est un esprit, c'est un mode de pensée.
Ouais,
un mode de...
vraiment.
Puis je trouve ça super intéressant dans une job qui est ultra cadrée.
Mm-hmm.
Même si c'est... Tu sais, j'ai ma meilleure amie qui est travailleuse sociale, puis elle aussi, elle a travaillé au CLSC à l'hôpital, tu sais, puis c'est... Puis elle était comme non, là. Tu sais, là, le cadre est trop grand, je vais aider les gens, puis tu sais, finalement, elle fait quelque chose de plus communautaire, tu sais, mm-hmm. qui permet d'avoir une liberté dans son intervention. Puis tout, c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est de comme d'aller shaker un peu les normes, là, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est important de le faire. C'est important de le faire parce que c'est pas parce que... Il y a des règles qui sont... Ils ont toutes raison d'être.
C'est
donc,
ça.
C'est important qu'il y ait des gens comme toi qui, même dans un domaine... Avec un ordre, avec, tu sais, c'est gros, là, l'ordre, mm-hmm. là, je sais que c'est quand même, ça peut être lourd, là, mais d'aller revendiquer un peu ça aussi, tu sais.
Oui, puis c'est important, tu sais, comme tu disais, c'est important d'avoir cet ordre-là, justement, pour protéger le public, c'est là pour ça.
Tout à fait.
Fait que, tant mieux si...
Oui, hein. tout en ayant cette possibilité-là, un peu d'amener une autre couleur, mm-hmm. tu sais, ça permet ça, mais ça donne un certain cadre, parce que, ben oui, il y en a qui... Puis les lois, puis les règles, puis les ordres viennent du fait qu'il y a des gens qui les ont trépassés puis qui ont blessé des gens. T'sais.
Non, mais quand on a un psychologue qui abuse des clientes ou qui fait... Là, on est bien content que l'autre soit là.
Faut qu'il y ait ça, tu sais. Puis c'est important à ce niveau-là parce qu'il y a tout un jeu de pouvoir qui peut jouer dans un bureau.
Oui,
beaucoup. Puis... pour ce qui s'en vient pour Véro.
Mmh.
Y a-t-il des projets? Tu travailles sur des trucs?
Oui, il y a un gros projet qui arrive à l'automne.
OK.
En stand-by, donc, on voit. Mais non, mais sinon, je poursuis avec mes chroniques radio. Là, c'est sûr, ça fait relâche pendant l'été, mais je vais poursuivre à l'automne aussi.
C'est où à la radio?
Je suis à Radio Énergie à Québec, 98.9, avec le coloré Stéphane Dupont.
Et tu parles de... C'est des chroniques vraiment sexo.
Oui, c'est des chroniques sexo, ouais.
Ça fait plusieurs années que tu fais ça, en plus,
ça fait deux ans, oui. En fait, j'avais fait une émission télé avec lui.
OK.
Il m'avait... Sa recherchiste m'avait appelé pour faire une émission de télé. Ça s'appelait Chez Dupont. Puis, c'est disponible encore sur Bellefibre, ceci dit. Mais puis là, ben, c'est ça, ça a cliqué. Puis, je pense qu'il aimait aussi ce côté... rebelle. En fait, on va garder avec ça. Puis lui, il est comme ça aussi, donc c'est... ça a fait un bon match.
Good. Donc, le gros projet qui arrive cet automne, tu peux pas nous en parler encore.
Non,
c'est à suivre.
Oui.
Good. Puis sinon, on peut... Tu sais, t'es ouvert encore à des consultations.
Ouais,
des gens qui ont envie, qui sont de Québec, qui ont envie de venir consulter aussi.
Oui, en couple aussi. Puis par Zoom. tu sais, la joie...
À distance aussi, ouais, mais oui, c'est vrai. Ouais. Ouais.
Le web est extraordinaire.
C'est ça, ouais, exactement. J'ai des clients d'Europe, puis c'est super le fun. Je voyage d'ici dans mon bureau, puis c'est bien le fun. Mm-hmm. Puis, ben, c'est ça. C'est, sinon, ben, sur Instagram, sur Facebook,
ouais,
je suis partout.
Ben, là, c'est sur Instagram. Ces vidéos sont vraiment drôles, puis... Il y a beaucoup d'humour, moi j'adore l'humour.
Oh, oui, puis ce que j'aime,
vulgariser, c'est vulgariser un peu des termes.
Oui,
puis elle
a des trucs concrets, tu sais, c'est des petits... moi, je suis une grande fan des petits pas, c'est des petites, ouais, actions, mais que si tu mets dans ta vie, ben je trouve ça intéressant parce que tu amènes ça aussi dans tes petites capsules, puis, mm-hmm, dans tes petits trucs que tu postes autant sur Facebook. Puis si vous voulez, puis vous n'êtes pas certaine, est-ce que ça fit avec moi, est-ce que ça serait la bonne personne, Véro offre des 30 minutes, oui, payant, mais ça te permet de prendre une petite consultation pour aller voir si c'est un bon match, si, ou pour répondre, comme tu disais, spécifiquement à quelque chose
de très précis oui,
que tu peux aider ou diriger ou accompagner au travers de ce petit 30 minutes.
Exactement. Donc, c'est mes consultations éclair. Donc,
oh oui,
ça
éclair.
Aussi,
c'est...
Ouais, c'est... non, c'est ça.
30 minutes dans un bureau, c'est vite en discuté.
Donc, oui, c'est ça. Ça existe.
Ah, fait que je trouve que c'est intéressant que les gens puissent savoir pas aller voir ça. T'sais.
Ah, moi, je suis tellement contente de t'avoir reçu. Je trouve ça vraiment le fun de parler. Ben, j'adore parler de sexe à la base, là, mais tu sais, de vraie sexualité puis tout ça, c'est, je trouve qu'on on n'en parlera jamais assez. C'est un peu ça ta mission, puis ça prend vraiment des gens comme toi qui décident de comme d'y aller, puis on en parle.
De rendre ça accessible.
De rendre ça accessible, ouais, à tout le monde. Donc, merci pour le travail que tu fais. Puis merci vraiment
de
nous avoir reçus.
Vraiment le fun.
Merci de ton ouverture, merci de ton authenticité, de ton sourire, de ta disponibilité. C'est un plaisir de te rencontrer. Moi, on se suit, je pense, mutuellement depuis un bout de temps.
Mais c'est ça, c'est drôle.
Fait que, je suis vraiment contente d'avoir eu le privilège de venir te rencontrer. Puis, ben, bonne chance dans tout,
ouais,
ce qui
s'en vient.
On
va tout mettre les trucs de Véro, là, les liens.
Oui,
on va tout mettre ça aussi en descriptif.
Oui.
Donc, voilà, un gros merci.
Merci.
Passe une belle fin de semaine.
Ben, merci à toi, Charlotte.
Merci, Caro. Puis,
merci à vous tous d'être présents. On vous invite à le partager, le podcast, à liker.
Nous encourager.
À mettre des commentaires en dessous de la vidéo, puis aller liker la page de Véro. Puis, ben, nous, on se retrouve dans un prochain podcast.
Yes. Bye, tout le monde.
Bye, bye.